RMC Football Show.
Très 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 compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot.
Oh mon Dieu, bordel de merde, que c'est bon. Bordel.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, After est là jusqu'à minuit, comme tous les soirs en direct, bien sûr. Vous le savez, nous sommes sur RMC, nous sommes sur RMC Sport, l'After, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense. Tout va jusqu'à minuit, toute l'actu tout à l'heure, avec Jonathan Macardy. Jonathan, bonsoir.
Salut.
Et Daniel Riolo. Daniel, bonsoir.
Salut les amis.
L'événement de l'After ce soir, messieurs, c'est le derby de demain. Et dans ce derby de demain, y a quoi? Y aura pas de supporters stéphanois. Et c'est pour ça que l'After crée ce soir un autre événement. Pourquoi? Parce qu'on a envie d'aller plus loin. On a envie de savoir comment ça se passe en coulisses. Pourquoi les supporters des Verts ne peuvent pas aller à Lyon demain, par exemple?
Comme les supporters de Boca River, de Boca Juniors, qui ne peuvent pas aller à River Plate.
Ah oui, mais là, notre invité de ce soir ne gère pas encore les supporters en Argentine. Il se contente de la France. Il y a déjà pas mal de boulot. Événement dans l'After. Antoine Mordac est avec nous. Bonsoir. Antoine Mordac, chef de la division nationale de lutte contre le hooliganisme. Donc vous êtes au centre, bien sûr, du dispositif dans les rapports entre clubs et supporters, entre supporters, entre eux. Vous gérez tout ça et vous allez nous expliquer comment, parce qu'il faut qu'on fasse un peu de pédagogie ce soir, mais qu'on dialogue également avec vous et que les supporters dialoguent avec vous. D'ailleurs, ils peuvent le faire au 32-16 dès maintenant. Appelez-nous, n'hésitez pas, que vous soyez supporter de n'importe quel club. Si vous avez des questions à poser à Antoine Mordac, c'est ce soir, si vous voulez en savoir plus. Et puis les groupes ultras sont les bienvenus, hein, s'ils veulent eux aussi venir s'exprimer. Ils seront là. D'ailleurs, à ce propos, nous avons également avec nous Cyril Dubois. Bonsoir Cyril.
Bonsoir.
Cyril, avocat du CUP, le collectif Ultra Paris. Donc le nouveau groupe Ultra créé il y a quelques mois maintenant autour du Paris Saint-Germain.
Un peu plus que quelques mois. Et aussi et surtout pour ce soir, avocat de la DAGIS, une association de défense juridique des supporters de football notamment.
Donc spécialisé dans toutes ces questions.
Exactement, et qui fait groupe Adagis, qui fait partie de l'ANS, Association Nationale des Supporters.
Le 32-16 est ouvert, direct studio sur l'appli gratuite RMC Sport, bien sûr. Vous nous envoyez vos messages, n'hésitez pas, le hashtag RMC Live sur Twitter. Je vous donne la suite du programme, hein, après 23h. L'actu blessure du jour, le PSG qui veut faire absolument jouer Neymar contre Liverpool. On vous expliquera quel est le projet. L'avis de Daniel qui veut parler du retour du corporatisme et des entraîneurs français, un de ses sujets favoris. Et puis Jonathan, également un avis ce soir sur le derby de Lyon-Saint-Etienne. Il va nous parler de Wahbi Khazri, notamment tout à l'heure, Jonathan. Et puis à 23h40, la suite de nos équipes type et équipe pipe. Ce soir, le PSG est au programme. C'est tombé tout l'après-midi. Supporters parisiens, on vous attend au 32-16, votre équipe type de l'histoire du PSG. Vous pouvez préparer vos Talal El Karkouri, vos Godwin Okpara et autres Roméo Calendra. On vous attend, bien sûr. Bon, allons-y. Antoine Mordac, merci d'être venu, parce que comme je le disais, c'est pas souvent que vous venez comme ça dialoguer directement avec les supporters, donc c'est un exercice qu'on apprécie dans l'after. Donc c'est super que vous soyez là.
C'est un plaisir.
Bon, pourquoi demain n'y aura-t-il pas de supporters stéphanois à Lyon?
Écoutez, demain, il y a deux mesures qui ont été prises au sujet du match à Lyon. D'abord, il y a un arrêté préfectoral qui a été pris par le préfet du Rhône, donc qui est compétent à Lyon, pour interdire la venue des supporters stéphanois dans le stade, dans le Groupama Stadium à Décines. Il y a une deuxième mesure qui a été prise au niveau ministériel, c'est un arrêté ministériel d'interdiction de déplacement, qui a une portée plus large, puisque il vient appuyer en fait juridiquement la mesure du préfet. Et puis par ailleurs, il y a une mesure aussi disciplinaire, même si c'est un autre sujet sur lequel je n'ai pas de compétences particulières. C'est la décision de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel qui a sanctionné les supporters stéphanois et donc qui a prévu de fermer le secteur visiteur dans le stade de Lyon. Donc ces mesures en fait se cumulent et effectivement amènent au fait qu'on n'aura pas de supporters visiteurs demain à Lyon.
Mais en termes de hiérarchie dans les lois, qu'est-ce qui prime en premier? C'est l'arrêté ministériel.
L'arrêté ministériel n'est pas systématique.
Mais c'est ce qui prime.
Simplement, il vient appuyer, avec une portée juridique plus large, l'arrêté préfectoral.
Donc c'est l'arrêté ministériel qui prime sur l'intervention.
Il se cumule, c'est-à-dire que l'arrêté préfectoral prévoit une mesure sur le stade et sur les communes autour du stade. Mmh. Et l'arrêté ministériel vient interdire le déplacement depuis le département de la Loire.
Précisons quand même, c'est sans surprise. Ce derby Lyon-Saint-Etienne, il y a quand même eu beaucoup de soucis ces dernières années. Donc, alors, est-ce que la stratégie préfectorale, ministérielle, est-ce que votre stratégie, c'est de se dire, dès qu'il y a un risque, on interdit ? C'est ça aujourd'hui ?
Non, c'est pas du tout la logique. Là, sur un match entre l'OL et la SSE, on est quand même sur l'un des matchs les plus sensibles de la saison. C'est comme vous le dites, c'est une surprise pour personne. On a malheureusement un historique de contentieux et d'incidents entre les supporters lyonnais et les supporters stéphanois qui est assez long. Et d'ailleurs, en fait, l'année dernière, les supporters lyonnais avaient été autorisés à aller à Saint-Etienne. C'était en novembre dernier, il y a exactement un an. Et le match avait donné lieu à des incidents extrêmement graves. Donc il y avait eu justement une tentative, on va dire, de désamorçage de la situation.
Est-ce que vous pouvez rappeler les événements graves qui s'étaient passés ?
Il y avait deux types d'événements. Nous, d'un point de vue vraiment de l'ordre public, il y a eu des événements gravissimes avant le match quand les supporters lyonnais sont arrivés. Ils étaient 850. Il y avait exactement. Un contingent assez important qui avait été autorisé par le préfet de la Loire et ils ont été attaqués par les supporters ultra stéphanois. Ils se sont pas laissés faire, donc ça a fini en bataille rangée à l'extérieur du stade avec des dégradations extrêmement graves, des violences, des blessés. Il a fallu employer la force de façon très forte, c'est-à-dire que on avait des renforts de force mobile à la disposition de la direction départementale de la sécurité publique. Donc ce sont ces événements qui ont été du point de vue de l'ordre public les plus graves. Ensuite, dans le stade, on a aussi eu des incidents pendant le match lui-même, avec des dégradations, notamment dans le secteur visiteur. Et puis après, il y a l'aspect plus sportif dont on se souvient tous. C'est à la fin du match, sur le 5-0 et
le maillot de Fekir.
Et le but de Fekir, où là, ouais. Il y a un envahissement des Stéphanois qui est tout aussi problématique.
Qui brandit le maillot devant la tribune.
Qui n'est pas directement, on va dire, un acte de violence entre Stéphanois et Lyonnais, mais qui est plus une réaction.
Ce genre de choses sur le terrain.
L'envahissement, oui, également. Oui,
On peut penser qu'il y aurait eu des problèmes si les Stéphanois s'étaient déplacés. Enfin, est-ce que c'est pas quand même un aveu de faiblesse finalement de se dire, mais on n'y arrive pas à faire en sorte que d'amener les supporters adverses et que ça fonctionne.
La question qui se pose, en fait, elle est assez simple. C'est est-ce que on est en mesure de préserver l'ordre public sur un match de cette envergure-là ? Évidemment, sur la plupart des matchs, et vous le savez, les autorités locales font en sorte que ça puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Là, on est je le répète, sur un match absolument quand même exceptionnel, on est sur des risques qui ont été estimés au sein du ministère de l'Intérieur comme étant extrêmement graves. En tout cas, c'est une conviction personnelle. On est à peu près certain que s'il y avait eu un déplacement stéphanois, même un déplacement encadré, parce que dans ce cas-là, on met en place, dans la mesure du possible, un encadrement avec une escorte, avec les forces de l'ordre qui partent du lieu de départ des supporters jusqu'au stade, on est persuadé que malgré toutes ces mesures qui auraient pu être prises, on aurait eu de toute façon des incidents, parce que la tension entre les Lyonnais et les Stéphanois, elle est absolument phénoménale, elle est à son paroxysme en ce moment, et pour cette raison-là, le préfet et le ministre de l'Intérieur ensuite ont décidé de mettre fin à cette possibilité sur ce match précis.
Cyril Dubois, vous qui êtes avocat impliqué dans toutes ces affaires-là, que dit l'ANS de ces interdictions de déplacement ?
Alors je suis pas porte-parole de l'ANS, mais évidemment l'ANS est contre toutes ces interdictions de déplacement qui se multiplient. Comme vous le disiez en préambule, c'était sans surprise et c'est vraiment ce qui est dommage. C'est-à-dire qu'un Lyon-Saint-Etienne, on sait d'ores et déjà qu'il n'y aura pas de supporters. Un Marseille-PSG, on sait déjà qu'il n'y aura pas de supporters du PSG, et c'est ce qui est vraiment pénible. Vous évoquiez des incidents que je ne nie pas, qui sont le fait de fauteurs de troubles, mais une fois de plus, et je crois que c'est seulement en France pour les supporters, on institue la punition collective, c'est-à-dire pour des comportements individuels violents
c'est
de certains.
En France, hein.
On punit l'intégralité des supporters.
C'est pas seulement en France, là, par exemple, ce week-end à la finale de Copa Libertadores,
vous parlez de Boca.
Les déplacements sont interdits.
Alors je pense que le degré de violence des barra bravas argentins est sans commune mesure, surtout pour un match de cet enjeu.
Il y a 43 blessés l'année dernière en Argentine pour un match entre deux clubs
plus près de chez nous. Je pense pas que le derby de la Roure soit privé de supporters. Je pense que les Allemands arrivent à gérer des déplacements.
On va reparler de l'Allemagne parce que c'est un modèle.
Un Manchester Liverpool de la même façon.
Et est-ce que vous croyez pas que les mecs se comportent aussi un petit peu mieux?
Non, pas spécialement.
Je pense que c'est une typologie, une sociologie des spectateurs qui est totalement différente.
Ce que j'aimerais savoir, moi, c'est que vous préconisez quoi, en fait?
Alors moi, je préconise déjà les sanctions individuelles, comme ça se passe pour tout à chacun, c'est-à-dire un comportement violent doit être sanctionné, mais ce n'est pas l'ensemble des supporters stéphanois qui doit être victime de ces agissements.
Essayons d'être concret, quand on sait, Monsieur Mardak vient de nous décrire ce qui s'est passé l'année dernière, on s'en souvient tous. Donc, si je vous suis, les mecs qui ont causé les incidents, si c'est en dehors du stade, bon alors déjà faut les identifier.
Ouais.
Donc ça demande des moyens policiers pour les identifier.
Que nous avons, les stades sont pratiquement les lieux les plus vidéosurveillés de France.
Ce que je veux dire, c'est donc pour le foot, on va dépenser de l'argent pour identifier, on va mobiliser des forces de police pour ça. Alors qu'elles peuvent faire autre chose. Je continue. Ok. Donc on identifie les mecs, on leur dit vous revenez plus. On interdit.
Ils sont jugés, défendus ou pas.
Voilà, ok, très bien. Sauf que ils sont interdits de stade. Ils sont éventuellement pas interdits de baston à 100 mètres du stade. Ils peuvent éventuellement revenir s'il y a trouble ou pas.
Enfin, comme tout à chacun, un délinquant, il est puni ou pas.
On se dit que cette année, vu ce qui s'est passé l'année dernière et vu ce que dit le renseignement et tout, il peut y avoir encore des embrouilles. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on, votre première étape, c'était de choper celui qui l'année dernière ont foutu le bordel. Donc, cette année, on peut dire, bon, il n'y aura pas de bordel parce qu'on a sorti c'est quoi après 4, 5, 10, 15, 20? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va identifier vu le nombre d'incidents qu'il y a eu? L'envahissement de pelouse? Vu les bastons qu'il y a eu dehors.
Donc toi, Daniel, t'estimes que l'interdiction du groupe, c'est logique?
Non, mais moi, ce que je veux, c'est comprendre. Parce que moi, à chaque fois qu'on parle de ce sujet-là, ce que je ne comprends pas, c'est quelles sont les solutions préconisées par ceux qui les défendent.
Daniel,
moi,
tu oublies un facteur important, c'est le facteur contextuel. C'est-à-dire que là, on est sorti d'une situation plus large qui était un petit peu compliquée, mais c'est que les forces de l'ordre actuellement sont mobilisées pour d'autres tâches que le football.
Ouais, non, mais
oui, c'est un contexte très particulier, mais elles sont sous effectifs.
S'il n'y avait pas les gilets jaunes, il y aurait eu quand même une interdiction sur la place.
Éventuellement dire allez, peu importe. Donc moi,
important.
Non, mais évidemment. Mais comment on fait en fait pour éviter quand on envisage qu'il va y avoir des problèmes, pour se dire bah écoute. Moi, j'ai la solution. Il va pas y en avoir.
Et surtout qu'un des grands principes, c'est qu'un des grands principes qui ont fondé la 5ème République, c'est la prévention avant la punition. C'est la prévention avant la punition. Donc, comment vous positionnez par rapport à ça?
Un des grands principes. Mais surtout, quand vous demandiez tout à l'heure quelle était la hiérarchie entre un arrêté ministériel, préfectoral, ou bien la décision de la LFP, je pense qu'à la base, le problème, et c'est aussi le problème que nous avons eu pour le match PSG Étoile Rouge de Belgrade, le problème, c'est la fermeture du parquage visiteur. Je pense, et M. Mordac peut-être pourra le confirmer, c'est que s'il y avait un parquage visiteur sécurisé avec des stadiers, il serait beaucoup plus possible d'encadrer ce déplacement, nombreux ou pas, des supporters stéphanois. Étant donné que la LFP et sa commission de discipline l'a fermé...
Sur ce match-là, c'est deux sujets différents. Il faut pas oublier que la commission de discipline de la LFP, si elle a sanctionné les stéphanois, c'est suite à leur comportement, là précisément à Nîmes... C'est une rixe très importante qu'il y a eu avant le match entre Nîmes et Saint-Etienne, où il y a eu des affrontements entre les Green Angels et les supporters ultras, les Gladiators de Nîmes. Donc ça, c'est sur cette base-là.
La commission de discipline sanctionne les comportements dans le stade.
Je vous réponds juste, c'était dans l'enceinte du stade, c'était pas en tribune, mais c'était dans le stade. Là, en l'occurrence, on est sur deux sujets différents et c'est des mesures qui se cumulent. Il se trouve qu'elles se cumulent sur le même match parce que quand la commission de discipline prend une décision, ça s'applique sur le match immédiat après que la commission se soit réunie. Donc c'est pour ça que c'est tombé sur le match à Lyon. Mais moi, ce que je peux vous affirmer, c'est que de toute façon, la décision au niveau préfectoral et ensuite au niveau ministériel, elle n'est pas liée à cette décision de la commission de discipline. Pour répondre simplement à ce que vous disiez sur les sanctions individuelles, il y a des sanctions individuelles qui sont prises. Il y a des moyens policiers.
Il y a des interdictions.
Sur le match l'année dernière, Saint-Etienne-Lyon, il y a eu une enquête judiciaire au long cours qui a ensuite été menée par les services de police à Saint-Etienne. Elle a donné lieu à des interpellations. Elle a donné lieu à des condamnations, à des interdictions de stade, mais on parle de quelques personnes, de quelques dizaines de personnes.
Bah, les gens qui ont été identifiés.
Ayant été sur place, ce que je peux vous dire, c'est que ça a concerné 500, 600, 1000 personnes côté stéphanois et les 850 supporters lyonnais. Il y en avait une majorité ensuite qui était prêt à en découdre et qui l'ont fait. Donc là, on est d'accord sur le fait que l'essentiel, c'est d'abord d'individualiser les sanctions. Évidemment, ça c'est, mais c'est un petit peu idéaliste. Alors, si vous voulez, après, il y a aussi la question.
Je vous l'ai dit comment on fait. On sanctionne les comportements individuels.
Oui, mais on en prend
100. Avec quelle logistique, monsieur? Quelle logistique? Non, mais,
c'est un aveu de faiblesse. L'État n'a plus les moyens d'assurer la sécurité pour les matchs.
Il a peut-être des choix à faire, l'État. L'État, il a peut-être d'autres choses à foutre que d'organiser un match de foot.
Donc, du coup.
Bah, bien sûr.
D'accord. C'est formidable, ça. Du coup, ce qui est mieux, c'est de punir des gens qui n'ont rien à voir avec les faits.
Non, c'est pas punir, monsieur, c'est de faire de la prévention.
Non,
c'est faire de la prévention.
Les gars, j'aimerais qu'on avance.
Interdire des gens de rentrer dans un stade alors qu'ils n'ont rien fait, ça s'appelle les punir. Ça s'appelle les priver de
la prévention.
Comment font nos voisins pour l'organiser?
Maître Dubois.
Mais c'est pas une réponse, ça.
Maître Dubois, c'est moi. Daniel, s'il te plaît.
Mais moi, je veux savoir.
Il t'a répondu. La réponse ne satisfait pas, mais il a répondu.
Mais j'ai pas de réponse.
Non, mais il y a des parquages visiteurs qui sont prévus pour qu'il y ait des.
Est-ce que vous avez réfléchi à la question combien de policiers il faut pour encadrer?
Non, mais c'est le travail de monsieur. Évidemment.
Mais c'est formidable. Vous défendez une cause, vous n'avez pas de solution.
Mais bien sûr, la solution, elle est extrêmement simple.
Combien il en faut des policiers?
Mais je vais vous dire 5, je vais vous dire 10, et la réponse va vous plaire.
Bon, vous avez jamais réfléchi à ça?
Mais c'est pas une question de réflexion.
Daniel, s'il te plaît, top. J'aimerais qu'Antoine Mordac, donc, qui gère tout ça au niveau national, nous explique comment vous bossez. Parce que j'imagine que vous êtes aujourd'hui un spécialiste des groupes de supporters. Est-ce qu'il faut expliquer? Enfin, j'imagine que c'est comme ça. Vous avez des contacts directs. Vous restez pas dans votre bureau à Paris, à regarder ce qui se passe, ou à récupérer des rapports quand vous faites à Saint-Etienne, à Lyon, à Marseille, à Nice, ou je ne sais où. Vous allez au contact.
Bah, nous, notre travail d'abord, c'est de se baser sur des correspondants qu'on a dans chaque département. C'est-à-dire qu'on a des policiers qui sont déployés, des gendarmes parfois aussi, qui sont en charge justement de gérer, de suivre les questions de violence dans les stades au sens large, parce qu'on parle de hooliganisme, mais c'est plus large que ça, et qui, à ce titre, du coup, suivent chaque club, principalement les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 de football. On parle essentiellement de football, évidemment. En suivant ces clubs, en ayant des informations, on échange avec nos correspondants et ensuite, évidemment, on synthétise au niveau national. Ça permet aussi de passer l'information entre les différents départements. C'est-à-dire que, par exemple, quand un club se déplace et on sait, par exemple, que ses supporters sont assez virulents, dans ce cas-là, il y a une réaction, il y a des informations qui sont échangées avec le département où ils vont se rendre. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est-à-dire une cellule au niveau national et ensuite un lien avec chaque direction départementale de la sécurité publique qui, concrètement, chaque week-end, gère la sécurité de ces matchs.
Donc, quand un préfet, juste pour qu'on soit bien au courant, Daniel, hein, quand un préfet prend une décision d'interdire un déplacement, il prend en compte vos informations.
Bien sûr, nous on a un rôle dans ce cas-là de conseil auprès de l'autorité préfectorale. C'est lui seul qui a compétence pour décider de prendre un arrêté. Alors non pas d'interdiction de déplacement, mais en général, lorsqu'un arrêté est pris, et c'est pris sur une extrême minorité de matchs, hein, parce que parfois c'est un petit peu caricaturé, mais on est sur moins d'une centaine de mesures sur la saison passée. Et sur cette centaine de mesures, on parle à peu près d'une vingtaine de matchs sur lesquels le déplacement a été interdit.
C'est-à-dire 20 interdictions sur l'ensemble des matchs de Ligue 1 sur toute la saison.
Et de Ligue 2, les matchs amateurs, parce que parfois ça peut toucher le football amateur, et les 80 autres mesures sont des mesures d'encadrement, c'est-à-dire que le préfet indique qu'il autorise par exemple une jauge maximale de supporters visiteurs et il leur impose un cheminement. C'est par exemple ce qui a été le cas l'année dernière entre Saint-Etienne et Lyon, où les Lyonnais devaient venir en bus, suivre un cheminement particulier, être escortés et ne pas dépasser le chiffre de 850.
Vous nous parlez de vos sources qui sont principalement donc auprès de la gendarmerie?
De la police.
Et quel est le rôle de ces fameux supporters de liaison, du coup? Est-ce que vous êtes en contact avec eux?
On va y venir après, parce que c'est une nouveauté dans les clubs français. Il y a maintenant l'obligation pour les clubs d'avoir effectivement des agents, agents, c'est peut-être pas le bon mot, mais des référents supporters. Voilà, ouais. On va en parler tout à l'heure. On a le temps d'en parler.
Pour monsieur Mordac.
Daniel.
Puisque vous, mon ami, vous devez savoir. Imaginons, que tout aille bien, qu'on ait tous les moyens à notre disposition, puisqu'à chaque fois qu'on peut pas organiser, j'entends toujours c'est une faillite de l'État ou on n'est pas capable d'organiser des déplacements de supporters. Décrivez-nous le monde idéal qui aurait permis, par exemple, demain soir à 2000 Stéphanois de venir au Parc OL. Qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que ce soit possible? Est-ce que la France est capable d'organiser ça? Comme ça, j'aurais peut-être ma réponse. Je sais pas comment on peut faire. Donc
la,
moi, j'ai
la
envie
France
de savoir
est capable d'organiser des déplacements. Je vais vous prendre un exemple très concret. Mardi soir, Lyon joue contre Manchester City et il y a plus de 2000 supporters de Manchester qui vont venir à Lyon.
Et on sait qu'ils ont beaucoup de groupes indépendants aussi.
Ils ont des groupes indépendants. Alors cela dit, ils ont un profil qui est plus rassurant, on va dire, que ce que
Chelsea, par exemple.
notamment, mais je pense surtout à la comparaison avec le match de ce week-end. Si vous voulez, le risque sur le match OL Manchester City est beaucoup plus réduit que celui sur le match demain soir.
Oui, c'est pas OL Besiktas il y a deux ans.
C'est encore autre chose, effectivement, on peut en parler. Mais c'est pour vous dire qu'en tout cas, ça existe les matchs où il y a des déplacements massifs.
Comment on aurait pu faire notamment pour amener 2000 Stéphanois au parc OL
quand il y a une animosité qui
est très forte.
Pour moi, il y a un vrai sujet de confiance. C'est-à-dire que là, déjà, on est sur un historique qui est extrêmement tendu. Entre les supporters des deux clubs.
Ça, on le sait. Ça, on le
et
sait.
On sait que la situation est envenimée et qu'elle n'est pas encore complètement désamorcée. Enfin, okay. Elle ne l'est pas du tout. À mon avis, sur un match de ce type-là, et c'est un peu l'objectif, hein, nous, on ne défend pas le fait que les supporters ne puissent jamais se déplacer à Lyon quand ils sont de Saint-Etienne et inversement. Ouais. C'est que, par exemple, les groupes de supporters s'engagent dans un processus de dialogue. Ça commence tout doucement, on en a parlé tout à l'heure, ça commence tout doucement à se mettre en place. C'est-à-dire qu'ils échangent avec leur club. Ça commence à être le cas. Moi, je tiens à le dire, c'est que la Saint-Etienne, cette année, a apporté des éléments dans les réunions préparatoires avant ce match-là. C'est-à-dire de s'engager, par exemple, sur le nombre de supporters qui viendraient, sur la façon dont ils viendraient, et ensuite, eh ben, évidemment, de s'engager à tenir ces engagements.
Pardonnez-moi, monsieur Mardac, je veux pas, pour vous couper, mais c'est pour qu'on soit concret. Ça, j'entends bien, je comprends tout ça. J'ai envie vraiment, soyons concrets. Il y en a 2000 à prendre des Stéphanois. Ils sont devant le stade à Geoffroy Guichard. On doit les emmener au parc OL. Comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut prendre des bus les uns derrière les autres? Il faut organiser un déplacement en train? Combien de forces de l'ordre ça nécessiterait? Moi, je veux savoir, puisque les défenseurs disent toujours que l'État n'est pas capable, comment on peut le faire? Donnez-moi une réponse à ça.
Concrètement, moi, ce que je peux vous dire, c'est que sur le match de demain, on est certain que s'il y avait 2000 Stéphanois qui se rendaient à Lyon,
basé sur quel élément
sur la connaissance justement de ce milieu-là, on sait que même escorté, même en organisant effectivement un déplacement avec des forces de l'ordre, alors je vous parle même pas effectivement du nombre de policiers qu'il faudrait engager sur ce type de dispositif.
Mais vous n'avez pas le chiffre.
Je peux vous donner par exemple le dispositif qui a été mis l'année dernière sur la finale de l'Europa League entre Marseille et l'Atlético à Lyon. C'était un dispositif où on était entre 1500 et 2000 policiers quasiment engagés. On parle quand même de nombres qui sont très extrêmement lourds.
C'était pas le même nombre de supporters. Il y avait
10 000, 15 000
de chaque côté.
Mais on est sur des matchs qui sont d'une sensibilité assez élevée. Donc je peux pas vous donner le nombre qu'il aurait fallu déployer, mais ce qui est sûr, c'est que ça représente quand même une charge extrêmement lourde pour les forces de l'ordre.
Et comment on les fait venir?
Alors, attends, Daniel, s'il te plaît, il faut qu'on avance. C'est pas grave, t'en as eu une partie. Aurélien est avec nous au 32-16. Salut Aurélien.
Salut. Bonsoir à tous.
Bonsoir Aurélien. Aurélien, tu es supporter stéphanois?
Ouais.
Tu fais partie d'un groupe ultra?
Je suis supporter stéphanois.
Très bien. Écoute, nous t'écoutons. Et Antoine Mordac t'écoute.
Bah écoutez, moi j'ai attentivement écouté ce que vous avez dit là depuis tout à l'heure. Donc moi je trouve ça simplement assez désolant qu'aujourd'hui on en arrive à des situations qui soient comme celle-ci. C'est-à-dire que bah encore une fois on va taper sur une majorité pour préserver les cas entre guillemets particuliers qui pourraient y avoir. Que quand je lis les parce que c'est très compliqué, c'est ce que disait la personne tout à l'heure. Alors il y a d'un côté les suspensions LFP, puis après il y a les arrêtés préfectoraux, puis après il y a les arrêtés ministériels. Enfin bref, t'as l'impression que de toute façon il aurait fallu passer à 500 étapes pour pouvoir aller au stade. Même si je pense que toutes les décisions sont complémentaires et que finalement cumulées arrangent bien les uns et les autres. Mais voilà, je trouve ça désolant qu'aujourd'hui, en France, on ait une catégorie de personnes qui n'aient pas le droit d'aller à un point A, à un point B, tout simplement parce qu'on estime qu'on ne peut pas les encadrer, que si, que ça. Alors vous disiez qu'effectivement, aujourd'hui, c'est Daniel qui disait « t'as 2000 supporters stéphanois, ils veulent partir de Saint-Etienne, comment tu les escortes ?» Écoutez, excusez-moi, j'ai 32 ans, des déplacements à Lyon, dans des derbies, j'en ai fait... Il y a déjà 15 ans de ça, il y avait aussi 2000 personnes et on arrivait aussi à les emmener. Donc je pense juste que plus
il y a des incidents, Aurélien, qui ont eu lieu, je sais pas si tu te souviens, et ça a concerné 10 personnes, mais ça en a concerné combien, monsieur Mardac, à peu près?
Un millier.
Ouais, ça a
qu'est-ce qu'on fait avec ça alors?
Mais ce que j'essaie de te dire, Daniel, c'est que quand tu prenais les cas qu'il y a eu les années précédentes, les incidents, t'en as régulièrement dans tous les matchs de foot. Attention, parce qu'il faut pas se tromper de combat. Hein. Quand nous on dit qu'on a envie de se déplacer dans un stade, on n'est pas en train de dire que ça légitime des affrontements ou ce genre de choses. Donc,
Aurélien, tu peux être d'accord sur le fait que les affrontements sont inhérents aux déplacements qui sont à risque. Cite-moi un match qui risque où les supporters ont pu se déplacer sans affrontement.
Si le déplacement risque. Forcément plus de risques qu'il y ait des affrontements.
Mais c'est toujours le cas.
Bah donc on fait plus de déplacements à risque alors. C'est ça.
Bah, est-ce que j'essaie de te dire simplement moi
C'est une question. On peut pas les organiser.
Si la police envisage qu'il va y avoir du bordel à l'ordre public, pourquoi il faudrait accepter ça?
Antoine Mordac, qu'est-ce que vous avez envie de répondre?
De l'interdire. Daniel, la police s'est assurée l'ordre. Monsieur Mordac.
Est-ce que vous avez envie?
Donc on se dit il y aura du bordel, mais on l'accepte parce que la police elle est là pour régler le bordel.
Non, la police est là pour assurer l'ordre. La police interpellera les responsables d'incidents. Non. Et mais je ne vois pas pourquoi ce monsieur là qui visiblement n'a rien fait.
Aurélien.
Sa liberté est restreinte et pourquoi il est privé de sa passion.
Antoine Mordac, qu'est-ce que vous voulez répondre à quelque chose à Aurélien là qui...
On revient sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le sujet du match de l'an passé. Il y a des déplacements qui ont été organisés sur ces matchs-là. Alors c'est pas les matchs en général. Le Saint-Etienne, les supporters stéphanois se déplacent cette saison la quasi-totalité des matchs. Donc là-dessus, il y a pas de débat. Là, on parle d'un match particulier où on a un historique et l'an passé, je le répète, il y a un sujet de préservation de l'ordre public et aussi effectivement de moyens policiers où à un moment donné, il faut trouver aussi un juste équilibre.
Alors messieurs, vous allez voir qu'il y a aussi plein de choses qui se passent bien, notamment dans les clubs, dans les rapports entre supporters et clubs, dans les rapports entre police et supporters on va rentrer dans les détails de cette organisation-là dans quelques instants au 32-16. On vous attend bien sûr, on remercie Aurélien. À tout de suite dans l'After
RMC Football Show, l'After Foot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, l'after est là. Jonathan Macardy, Daniel Riolo, Antoine Mordac avec nous ce soir, le patron de la division nationale de lutte contre le hooliganisme. Cyril Dubois est également là, il est avocat notamment au sein de l'ADAGIS, l'association de défense et d'aide juridique des intérêts des supporters. Donc, messieurs, je sais que la discussion continue pendant les infos. Soyons un peu disciplinés. Je vais vous la faire comme dans un tribunal, maître, si ça continue. Alors, non, ça, pour l'instant, ça va. Antoine Mordac, il y a désormais au sein des clubs l'obligation d'avoir ce qu'on appelle un référent supporter qui sert de lien entre la direction du club, les supporters. Alors, il y a certains clubs où ça se passe très bien, d'autres où ça se passe moins bien.
T'as dit un Gus, c'est un peu plus droit.
Les gars, vous-même, vous avez aussi des référents qui sont en contact des supporters. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces process qui sont mis en place là depuis peu? C'est assez récent, tout ça, et qui finalement aident à fluidifier les relations, quoi.
Le référent supporter, c'est une fonction qui a été créée par la loi du 10 mai 2016, qui a justement notamment vocation à développer le dialogue avec les supporters. C'est une idée, on parlait tout à l'heure de l'Allemagne rapidement, c'est une idée qui vient notamment de l'Allemagne et qui est portée aussi par les instances européennes, par l'UEFA, parce que l'UEFA pousse les clubs européens qualifiés notamment en Coupe d'Europe à avoir cette fonction-là. Concrètement, c'est quelqu'un qui doit faire partie du club, qu'il soit un salarié ou un bénévole, mais en tout cas qu'il soit au sein du club.
Parfois des gens qui viennent des groupes de supporters.
Parfois c'est des anciens supporters, et l'idée c'est qu'ils soient au contact permanent et quotidien des supporters pour justement échanger sur ce que le club peut proposer aux supporters. Est-ce que les groupes de supporters aussi demandent ou sont prêts à faire sur les matchs à domicile?
C'est important de préciser que dans la majorité des cas, c'est un salarié du club.
C'est souvent un salarié du club, oui. Et l'idée aussi, c'est donc les matchs à domicile, mais surtout les matchs à l'extérieur, parce que on parle depuis tout à l'heure surtout de ce sujet-là, c'est le sujet des déplacements. Et la difficulté sur la plupart des déplacements, c'est surtout le défaut d'information. C'est pas parce que il y a des contentieux forcément importants entre les supporters, c'est que sur un certain nombre de matchs, en fait, on n'a pas d'information de la part des groupes de supporters qui ne souhaitent pas communiquer, qui ne peuvent pas communiquer, peu importe. Mais en tout cas, le rôle du référent supporter, c'est justement de permettre l'échange, d'avoir plus d'éléments d'information avant les rencontres, pour avoir justement tous les éléments avant de décider si un déplacement peut bien
s'organiser. D'après ce que je sais, il y a déjà eu des situations récentes où il y aurait pu y avoir des bagarres ou des situations qui dégénèrent et qui ont été calmées ou stoppées par ces référents supporters qui servent de tampon, quoi, finalement.
Bien sûr. Ouais. Et puis, le référent supporter, maintenant, il a vocation aussi à venir participer aux réunions en préfecture, parce que vous savez qu'on organise des réunions préparatoires.
Ils sont formés, d'ailleurs.
Avant chaque match.
Il y a une formation,
il y a des formations qui a été développée assez récemment. Nous, on y participe aussi, justement, pour avoir, pour apporter, mon adjoint précisément y était sur sur les dernières formations, et l'idée c'est aussi justement de porter notre rôle auprès des référents supporters. En tout cas, sur les déplacements, j'ai effectivement pas mal d'exemples concrets sur lesquels la présence du référent supporter, parce que ce qui est important aussi c'est qu'il soit présent sur les matchs à domicile, à l'extérieur, a permis de désamorcer un certain nombre de situations.
Au niveau des fameuses IDS, les interdits de stade, quelle est la situation actuelle? Est-ce qu'il y en a par exemple plus que la saison dernière, moins, comment, quelle est la tendance?
on est sur un chiffre qui est assez stable, qui est plutôt à la baisse si on est sur les 5 dernières années. Aujourd'hui, on est sur un peu moins de 300 personnes qui sont interdites de stade. Il y a deux types d'interdictions.
Au niveau national.
Au niveau national, il y a des interdictions judiciaires de stade qui sont des peines complémentaires qui sont décidées par les tribunaux lorsqu'il y a une condamnation. C'est à peu près la moitié. On a environ 130 mesures judiciaires d'interdiction de stade. Et puis le reste, ce sont des mesures administratives, ce sont des interdictions administratives de stade qui sont décidées par le préfet, là aussi, pour préserver l'ordre public à l'égard des gens qui sont susceptibles de causer un trouble et qui, en général, ont été identifiés, là aussi, pour avoir causé des troubles dans les stades.
Vous avez la proportion de fumigène dans ces interdictions administratives ou judiciaires?
Non, j'ai pas de détails en tête. Mais
la proportion interdiction pour fumigène est très importante par rapport à celle pour les violences, et on en arrive au nœud du problème, et une divergence très importante entre acteurs du football. C'est cette loi qui pénalise et criminalise les supporters qui utilisent des fumigènes, et sur laquelle un jour il faudra peut-être qu'on ait un débat, parce que j'ai pas l'impression
que l'utilisation de fumigènes est illégale en France.
On peut en parler, mais
maître Dubois.
Et voire très sévèrement puni dans certains cas, alors que ça fait partie de la culture des supporters de foot, et que des évolutions, y compris technologiques.
Pour vous, il faut faire quoi? Quelle est la proposition
alors,
de...
Alors, je pense, alors, monsieur Rivo, parce que là, j'ai des solutions plus concrètes, en fait. Le pouvoir de police, je l'ai pas, il est en face de moi, mais ça, sur les fumigènes, il y a déjà au Danemark un inventeur d'un fumigène
dit froid.
Donc, je pense qu'il est amélioré, parce que l'effet, pour l'instant, me paraît plus proche du...
Mais les supporters sont prêts à utiliser ce fumigène froid?
Faudra déjà l'essayer, faudra leur demander, faudra faire évoluer.
Oui, dans la mesure où les blessures avec les fumigènes, c'est beaucoup les gens qui les agitent. Il y a eu beaucoup de problèmes aux doigts et aux mains.
Voilà. Très bon exemple, et c'est très souvent lié, cette utilisation des fumigènes, à la répression. Donc les supporters se cachent, se cagoulent. Quand le steward essaye de leur arracher des mains, c'est là qu'il y a le souci avec les fumigènes brûlants.
Vous avez bien commencé à tomber dans la victimisation.
Non, pas du tout. Ensuite, pour rentrer les fumigènes, vous savez que les fumigènes ont un long manche prévu pour pas se brûler. Ils sont obligés de les couper. Non, mais je vous lis très concrètement.
Pour pouvoir l'introduire.
J'étais
comme ça, non?
Le mec, il allume et il sait qu'il a un risque de se brûler la main, franchement.
C'est bien la preuve que la passion parfois est irrationnelle. La solution, à part le fumigène froid, c'est qu'il y ait des zones un peu tampon, mm-hmm, avec des personnes autorisées parmi les ultras.
De l'encadrement de la zone pyrotechnique, on est d'accord.
Exactement, qui peut-être auront subi une formation incendie.
Là vous avez totalement raison. Par contre, j'aimerais vous répondre sur ce que vous avez dit en premier. Là, je vous trouve un peu hypocrite.
Et ensuite, encore une mordaque sur les fumigènes.
Vous êtes vraiment hypocrite parce que.
Un peu
vraiment hypocrite parce que vous, quand vous comparez la part des interdictions de stade qui sont relatives à l'utilisation des engins pyrotechniques et aux violences, vous oubliez un élément qui est très important, c'est que la part des violences a baissé. Et c'est très important de le notifier. Si la part des violences a baissé, c'est dû à l'encadrement policier. Donc ça n'a rien à voir avec une responsabilisation que vous sous-entendrez des supporters. C'est dû à l'encadrement policier qui a été proportionnel à la baisse des interdictions.
C'est l'inverse de ce que je voulais dire.
Je voulais dire que les
interdictions pour utilisation de fumigène étaient surreprésentées, et que justement on devrait aller vers une dépénalisation ou une autorisation contrôlée. Donc c'est ce que je voulais dire, c'est qu'on criminalise et on interdit pour des fumigènes.
Cyril Dubois.
C'est exactement l'inverse.
Sur les fumigènes, Antoine Mordac, est-ce que la tendance est d'aller vers plus de souplesse ou pas du tout?
La tendance, c'est surtout pour nous, en tout cas, d'appliquer la loi. Et la loi, aujourd'hui, elle interdit l'utilisation des engins pyrotechniques au sens large, parce que dans la pyrotechnie, on parle des fumigènes, mais on parle aussi des pétards. Il y a un certain nombre d'autres objets qui peuvent être utilisés.
Oui, les bombes agricoles,
pourquoi,
gros
pourquoi
pétards.
Elle interdit les engins pyrotechniques dans les enceintes sportives? C'est parce qu'ils sont utilisés dans des milieux confinés, parce qu'il y a énormément de public. Ils sont dangereux pas seulement quand il y a une tentative d'interpellation. Ils sont dangereux parce que le groupe lui-même déjà fait qu'il y a un vrai risque d'utilisation de l'engin. Pour la première fois, nous, la saison dernière, on a décompté le nombre de blessés sur une base déclarative. Alors c'est très relatif parce qu'évidemment un certain nombre de supporters vont pas se signaler quand ils sont blessés, mais en tout cas sur cette base-là, nous on a déjà compté 29 personnes blessées, soit par des brûlures liées à l'usage de fumigènes, soit liées à des explosions suite à l'utilisation de pétards, qui en général sont encore plus graves en termes de blessures que l'utilisation des fumigènes. Donc nous on est dans l'application de la loi, et la loi aujourd'hui elle elle l'interdit. Simplement pour vous répondre sur l'idée d'un encadrement de la pyrotechnie. Alors réglementairement aujourd'hui, moi ça me paraît assez compliqué, mais dans l'absolu, je vous invite à demander à des groupes ultra s'ils sont réellement prêts demain voir encadrer avec un agent de sécurité incendie, avec un matériel spécifique.
Le fumigène,
Mickey. Si vous avez des auditeurs qui vous interrogent là-dessus, j'ai une petite idée de la réponse et je suis pas sûr que ce soit dans le sens justement de l'ouverture.
Il y a deux choses dans ce que vous dites. Moi, j'aimerais vous poser deux questions. La première, c'est quelle est votre réaction quand vous voyez que les médias font la promotion des matchs un peu chauds en mettant des images de tribunes avec des fumigènes? Est-ce que c'est pas hypocrite? Et la deuxième question, c'est pour vous, monsieur. Est-ce que vous trouvez pas que le fait de s'indigner de l'interdiction de l'utilisation de fumigènes, c'est pas, moi qui ai beaucoup voyagé en Amérique latine, c'est pas un petit peu un manque d'imagination? Parce qu'en Amérique latine, effectivement, quelquefois, il y a des fumigènes, mais il y a plein d'autres manières de mettre de l'ambiance dans un stade. Les rouleaux de papier toilette, par exemple.
Envoyez les papelitos!
Les rouleaux de papier toilette, si vous allez dans les stades français, vous voyez que pour les tifos, notamment, et à Paris, on manque pas d'imagination.
Jonathan, à mon avis, il y a longtemps que tu t'es pas mis devant la télé, alors, parce que là, ces derniers temps, t'as raté des trucs, hein.
Non, mais j'ai vu. Ce que je veux dire, c'est que par rapport, je parle en Uruguay, en Argentine, il y a plein d'autres choses.
Comme mais là, par exemple, la France, là, l'ambiance de Malaga. Oui, mais tu peux t'en inspirer. Alors.
Donc, quelle était votre question,
Est-ce que vous pensez pas que la focalisation du mouvement des supporters sur l'utilisation des fumigènes, c'est pas un manque d'imagination du mouvement des supporters?
Déjà, non. C'est juste que ça fait partie de leur culture. Et quand vous disiez, c'est là que je voulais en revenir, quand vous disiez que je m'indignais, justement, du traitement des craqueurs de fumigènes, oui, parce que la répression, ces dernières années, a été extrêmement sévère. Vous savez que certains supporters ont été obligés de pointer pour juste avoir un fumigène de manière festive. Certains étudiants, ingénieurs, même
pour la loi. Mais c'est interdit.
C'est interdit par la loi. Se sont retrouvés à pointer au commissariat au début des matchs et à la mi-temps. Et à la mi-temps des matchs, quand on supporte le PSG, c'est-à-dire qu'on va pointer au commissariat tous les 2-3 jours avec les matchs de Coupe d'Europe, Coupe de la Ligue, on perd souvent son travail, sa petite amie, c'est une vraie peine qui est beaucoup plus sévère que pour certaines personnes qui exercent des violences.
Vous êtes avocat.
Je suis d'accord. Récemment, les dernières décisions du tribunal de Paris ont juste condamné les supporters pour le match PSG Real de Madrid. Je les ai défendus. Ils ont juste été condamnés à une amende de 150 euros sans interdiction de stade et sans pointage au commissariat.
Vous êtes en mode avocat.
Non, c'est pas moi. Je pense que les juges en ont aussi assez de traiter comme des criminels, des étudiants, des gens qui viennent au stade d'une manière festive et allument des fumigènes. Non, ils ont envie de passer à autre chose.
Il s'agit pas de dire que c'est des criminels.
Oh, bah non. Mais ils sont pas correctionnels parce que c'est pas un crime. Ils passent entre deux dealers, quelqu'un qui a tapé sa femme.
Pourquoi en fait ces discussions-là et ces débats, on les a depuis pas mal de temps, nous, dans cette émission. Pourquoi finalement on simplifierait pas le débat et vous viendriez pas finalement dire, nous, je dis nous parce que vous les représentez, nous, les supporters, on veut se déplacer, on veut être libre de faire ce qu'on veut. Si on veut avoir des fumigènes, on veut avoir des fumigènes. Certes, il peut y avoir des incidents. Nous, on se déplace, on fait ce qu'on veut, et la police fait son taf. Et s'ils ont besoin d'arrêter des gens, ils arrêtent des gens. Voilà. Pourquoi vous dites pas ça clairement? Finalement, en fait, qu'il y ait des incidents ou pas, finalement, vous vous en foutez. Vous, ce que vous voulez, c'est la liberté d'aller et venir.
Bah, comme tout citoyen,
simplifier le débat.
Parce que là, vous êtes en groupe. Vous parlez de groupe. Vous parlez pas d'individu.
Et vous, sur le plan de la loi, c'est différent. On partait jamais avec un groupe d'amis.
Ce que je vous propose, c'est d'avoir un discours qui est très simple. C'est-à-dire, nous, on veut se déplacer. On veut avoir la liberté d'aller et venir. Peut-être qu'il y aura des incidents. On n'est pas là pour garantir la sécurité ou pas. Nous, on le fait. La police fait son taf. Voilà. Simplifié.
J'aimerais de façon générale.
C'est à peu près ça.
Ils veulent jouir de leurs droits de citoyen, comme tout à chacun. S'ils sont arrêtés,
ne niez pas. Dans ces cas-là, il faut pas nier.
Je dis pas que la violence n'existe pas.
Parce qu'à chaque fois, l'argument qu'on entend, c'est oui, il peut y avoir quelques fauteurs de troupes. Non. Dites, on va se déplacer et forcément il y aura du bordel. Si c'est en bus, ce sera sur une aire de repos. Si c'est au stade, ce sera si on croise d'autres mecs. Il peut y avoir et que la police fasse son taf. Voilà.
De façon plus générale, Daniel, s'il te plaît.
Il n'y a pas d'amalgame à faire.
Il n'y a pas de punition collective.
Les gars, je veux profiter de la présence d'Antoine Bordac, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes plutôt pessimiste ou optimiste là sur les mois qui viennent et les saisons qui viennent sur justement toutes ces questions, moins d'interdiction de déplacement, moins d'interdiction au stade? Quelle est la tendance que vous constatez?
Bah, j'essaye d'être optimiste déjà, parce que notamment on a justement cette loi du 10 mai 2016 qui a vocation à développer le dialogue avec les supporters, qui fonctionne plutôt bien au niveau national, parce qu'il y a des instances de dialogue qui se sont créées, notamment ce qu'on appelle l'instance nationale du supporterisme, c'est-à-dire que tout le monde se met autour de la table, on est souvent effectivement pas d'accord, mais au moins ça permet d'échanger, il y a des débats et il y a des choses très concrètes sur lesquelles on a déjà avancé. Vous avez parlé tout à l'heure des référents supporters, je peux vous parler aussi des tribunes debout sécurisées, qui suite à l'incident à Amiens, lorsque la tribune des Lillois s'était effondrée, avait donné lieu à une réunion à l'INS, à l'instance nationale du supporterisme, et cette réunion avait permis justement de mettre en place une expérimentation dans quatre stades aujourd'hui de Ligue 1 et Ligue 2, bientôt 5, pour l'instant c'est 4, c'est Amiens, Sochaux, Lens et Saint-Etienne, où il y a certaines tribunes, les tribunes ultra pour être clair, où les aménagements ont été faits pour qu'on n'ait plus des places assises mais des tribunes debout, parce que la réglementation actuellement,
ce qui est finalement plus sécurisant,
des places assises. Alors c'est plus sécurisant en mettant des matériels spécifiques, par exemple des garde-corps, pour que justement on évite le mouvement de foule et la logique de déferlante vers le bas de la tribune, notamment sur les buts.
C'est quand même intéressant, ça veut dire qu'il y a quelques années, il n'y avait pas de dialogue. Enfin, non, faut être concret.
C'est une vraie évolution, je le reconnais volontiers, avec cette direction de la DNH. Alors, il y a des dialogues, il y a des ateliers Nivelles qui se font avec les supporters. Il y a vraiment une reprise.
Atelier Nivelles du nom du gendarme.
Gendarme qui avait été gravement blessé en 98.
Une fondation allemande qui a été créée après 98.
Dans quelques instants, une question de Fabrice au 32-16 et on vous attend également sur Direct Studio et sur le hashtag RMC Live. Il y a beaucoup de messages que je vais vous lire dans quelques instants dans l'after.
RMC Football Show, l'after foot, Gilbert Bribois.
Daniel Riolo, Jonathan McCarthy, avec nous donc Antoine Mordac, chef de la division nationale de lutte contre le hooliganisme, Cyril Dubois, avocat, qui entre autres a défendu récemment, donc on l'a entendu, des supporters suite à l'utilisation de fumigène, mais pas que. Une question directe sur le hashtag RMC Live, Antoine Mordac, c'est Pelouse 1906 qui lui dit, attention, l'interdiction de déplacement de demain peut-elle entraîner la venue de Stéphanois indépendants et donc créer un autre risque plus important? Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez parfois sur des interdictions?
Il y a toujours un risque qu'une mesure administrative soit contournée, mais le dispositif policier sera présent justement pour s'assurer de l'exécution de l'arrêté.
Voilà. Faut rappeler que demain, pas de signe ostentatoire stéphanois, quoi. En gros,
toute personne se prévalant de la qualité de supporter de Saint-Etienne.
Est-ce que vous n'avez pas peur que ça se termine comme en Angleterre, où la gentrification, enfin l'ultra, voilà, contrôle des tribunes anglaises a donné lieu à un développement assez important du mouvement indépendant.
Je pense pas que ça soit assez, ça soit comparable à la situation en France aujourd'hui.
Quelles sont les différences?
À mon avis, c'est ça qui est
intéressant.
En Angleterre, il y a vraiment eu effectivement un sujet sur la billetterie, sur l'augmentation des prix.
On
des
le
billets.
Suit, hein. Les prix augmentent. Les abonnements restent raisonnables, mais ça augmente.
Dans tous les pays, ça dépend beaucoup des clubs. Il y a des clubs qui ont des politiques tarifaires, je crois, assez variables.
Les spectacles sont pas prêts de faire ça.
Et quand plus
Jonathan.
C'est un exemple parmi d'autres, mais après je peux vous donner des contre-exemples où les billets restent très accessibles dans les stades. Et puis la différence aussi avec l'Angleterre, c'est que les groupes ultra sont toujours présents dans les tribunes et ils n'ont pas été sortis comme ça a été le cas en Angleterre il y a une dizaine d'années.
Monsieur Mordac, on en est où en France? Je sais pas si on peut dire ça comme ça, les problèmes que posent nos supporters, la violence de nos supporters par rapport au reste de l'Europe, parce que l'année dernière, si je me trompe pas, on a quand même eu nos trois clubs les plus importants qui ont eu des problèmes au niveau européen, que ce soit Paris, Lyon ou Marseille, tous les trois devant l'UEFA ont eu des soucis, donc au niveau européen, qui est pas terrible pour notre image, pas terrible pour l'image de ces clubs-là, pour l'image de ces supporters-là. Est-ce que d'autres clubs ont souffert de ces mêmes problèmes?
De façon générale, les problèmes et les incidents sont concentrés sur quelques clubs. Pour vous donner un exemple, à peu près 70% des interpellations que l'on fait sur la saison dernière en Ligue 1 se concentrent sur 5 clubs. C'est-à-dire que 5 clubs concentrent l'immense majorité des incidents.
Alors, on peut les citer?
L'année dernière, c'était Bordeaux qui était principalement concerné parce qu'il y a eu un sujet, notamment avec les ultramarines et le non-respect d'un certain nombre d'arrêtés qui leur interdisaient le déplacement. Il y avait Saint-Etienne, il y avait Paris, il y avait Marseille et Lille aussi qui étaient concernés. Alors d'ailleurs, on se rend compte aussi que c'est très lié aux sportifs. Dans le cas de Lille, par exemple, les incidents étaient liés au fait que les résultats ont été assez mauvais sur une bonne partie de la saison. Donc pour vous répondre, on a quelques clubs qui posent difficulté, en tout cas les supporters de ces quelques clubs-là. Et effectivement, ça s'est révélé l'année dernière en Coupe d'Europe, alors aussi en raison du parcours de ces clubs-là. Je pense par exemple à Marseille, qui est allé en finale de l'Europa League et qui a causé pas mal de difficultés, en tout cas dans les déplacements de ses supporters, sur la plupart des matchs en Coupe d'Europe. On a eu effectivement aussi Lyon, notamment sur le match entre Lyon et le CSKA Moscou en Europa League, et Paris dans une moindre mesure quand même en Ligue des Champions. Voilà, c'est concentré principalement sur ces clubs-là l'année dernière.
Franck est avec nous au 32-16. Franck, bonsoir. Bonsoir Franck.
Bonsoir.
Franck, on t'écoute.
Oui, alors moi j'aurais voulu parler aussi d'une petite chose, c'est de la problématique des agressions systématiques sur les stadiers. Ça, on n'en parle pas dans le domaine du football. Vous parlez beaucoup du domaine des bagarres de supporters et autres.
Toi, tu es stadier, Franck ?
Oui, je suis stadier depuis plus de 20 ans, moi.
Dans quel stade ?
Ah, là, si je donne trop d'infos, on va me reconnaître, donc je me passerai bien de le donner.
On n'est pas en danger.
Dans l'ouest, on va dire dans l'ouest de la France.
Et tu as été victime toi-même d'agression ?
Oui, j'ai été victime. Alors le moins marrant dans l'affaire, c'est qu'en 2016, j'ai été victime d'une agression dans un stade. Donc, coups et blessures en réunion de la part de plusieurs supporters réunis, on est bien d'accord. Et votre interlocuteur, là, monsieur Ronat, c'est ça ?
Monsieur Mordac.
Monsieur Mordac, en 2016, a fait un tour des stades pour faire de la pédagogie au moment de l'Euro 2016, avec les mesures anti-hooliganisme qui étaient prises. De mémoire, il est venu dans le stade rencontrer les supporters. Donc du stade où je me suis fait agresser, moi. Et comme c'est bizarre, la belle photo qui est passée dans la presse, je vois deux de mes agresseurs en photo avec avec votre interlocuteur. C'est quand même énorme.
Donc ils n'ont pas été condamnés, les gens qui t'ont agressé là ?
Bah bien sûr que non, ils n'ont pas été condamnés.
Alors est-ce que c'est des problèmes que vous rencontrez fréquemment, les agressions de stadiers, Antoine Mordac?
Le sujet, en tout cas, alors j'ai pas souvenir du tout d'une visite dans un stade de l'Ouest de la France avec des photos avec les supporters, mais en tout cas pour vous répondre, le problème de tension qu'il y a entre les supporters, évidemment, souvent ils se reportent sur les policiers et sur les agents de sécurité. Pourquoi? Parce que sur un certain nombre de matchs, quand les supporters ont l'intention d'aller au contact de supporters adverses et qu'ils n'y arrivent pas, et ils s'en prennent à qui ? Ils s'en prennent d'abord aux agents de sécurité privés, qui sont ceux qui assurent la sécurité au sein du stade et à l'occasion de chaque match. Effectivement, je crois que votre auditeur il a raison de souligner ça, hein, c'est qu'il y a énormément de personnel de sécurité privée qui sont déployés sur chaque match, et ce sont eux qui assurent en premier rideau, on va dire, la sécurité au sein des tribunes. Et malheureusement, ce sont eux qui sont confrontés aussi à ce genre de violence. Et puis, il y a aussi la question des violences à l'égard des policiers. L'année dernière, on a eu 79 policiers qui ont été blessés au cours de la saison sur des matchs de football. Et malheureusement, c'est effectivement souvent lié aux tensions autour des stades, et notamment quand les personnels de sécurité s'opposent et bloquent les supporters sur un mouvement de foule.
Pour conclure, est-ce que vous êtes satisfait du travail du monde du football aujourd'hui, des clubs, de la ligue, est-ce que les choses se passent bien ?
Ça s'améliore beaucoup. Sur le sujet de la sécurité, il y a de vraies avancées, il y a une vraie professionnalisation de la sécurité privée qui permet aussi d'améliorer le niveau de sécurité dans chaque enceinte sportive. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, en termes de dialogue, moi j'ai la sensation que tout le monde se parle, on n'est pas toujours d'accord, mais en tout cas il y a des discussions avec les ligues, avec les clubs, avec les groupes de supporters qui veulent bien dialoguer, ce qui n'est pas le cas de tous les groupes de supporters. Et évidemment avec les représentants du ministère de l'Intérieur dont je fais partie, de façon justement à essayer de trouver des solutions sur une majorité de matchs. Parce que je le répète, pour moi, il y a une majorité de matchs sur lesquels on peut régler les petits problèmes, les petites incompréhensions. Et malheureusement, on aura toujours évidemment une minorité sur lesquelles ça sera beaucoup plus compliqué. Mais je suis sûr que déjà, il y a un certain nombre de rencontres sportives où en discutant et en préparant mieux les matchs, on peut sortir par le haut.
Messieurs, merci d'être venus. Je constate en tout cas que la police parle plus que les arbitres, Daniel. Parce que les arbitres ne parlent jamais. Donc vous êtes là, Antoine Mordac. Donc merci d'être venu et de nous avoir expliqué tout ça, parce qu'on a appris finalement plein de choses. Maître Dubois, bon, on se revoit. De toute façon, on continue ces débats régulièrement dans l'after. On vous souhaite une bonne saison à tous les deux, en espérant que tout se passe bien, évidemment. Nous, dans l'after, dans quelques instants, on repasse cette fois sur le terrain. Neymar va-t-il jouer mercredi ? Le PSG veut tout faire pour qu'il joue. L'avis de Daniel sur les déclarations du jour des coachs français, c'est tout de suite dans l'after.
RMC Football Show, l'after foot.